Troisième partie, le roi volé. Les époux ennemis.
Depuis 8 mois, la reine Isabelle vivait en France. Elle y avait appris la liberté et rencontré l'amour. Et elle avait oublié son époux, le roi Édouard. Celui-ci n'existait plus en ses pensées que d'une façon abstraite, comme un mauvais héritage laissé par une ancienne Isabelle qui eût cessé d'être. Il avait basculé dans les zones mortes du souvenir. Elle ne se rappelait même plus, lorsqu'elle voulait s'y forcer pour raviver ses ressentiments, l'odeur du corps de son mari, ni la couleur exacte de ses yeux. Elle ne retrouvait que l'image vague et brouillée d'un menton trop long, sous une barbe blonde, et l'onduleux, le désagréable mouvement du dos. Si la mémoire fuyait, la haine, en revanche, restait tenace. Le retour précipité de l'évêque Stapledon à Londres justifia toutes les craintes d'Édouard et lui montra l'urgence qu'il y avait à faire revenir sa femme. Encore fallait-il agir avec habileté et, comme disait Hugh le Vieux, endormir la louve si l'on voulait qu'elle regagnât le repère. Aussi les lettres d'Édouard pendant quelques semaines furent celles d'un époux aimant qu'affligeait l'absence de sa compagne. Les Despenser eux-mêmes participaient à ce mensonge en adressant à la reine des protestations de dévouement et en se joignant aux supplications du roi pour qu'elle leur accordât la joie de son prompt retour. Édouard avait également chargé l'évêque de Winchester d'user de son influence auprès de la reine. Mais le 1er décembre, tout changea. Édouard, ce jour-là, fut saisi d'une de ces colères soudaines et démentes, une de ces rages si peu royales qui lui donnaient l'illusion de l'autorité. L'évêque de Winchester venait de lui transmettre la réponse de la reine. Celle-ci répugnait à regagner l'Angleterre par la crainte que lui inspiraient les entreprises de Hugh le Jeune. Elle avait d'ailleurs fait part de cette crainte à son frère le roi de France. Il n'en fallut pas plus. Le courrier qu'Édouard dicta à Westminster, pendant 5 heures d'affilée, allait plonger les cours d'Europe dans la stupéfaction. Et d'abord, il écrivit à Isabelle elle-même. Il n'était plus question à présent de doux cœurs. « Dame, écrivait Édouard, souvent fois, nous vous avons mandé, aussi bien avant l'hommage qu'après, que pour le grand désir que nous avons que vous fussiez auprès de nous et le grand mésaise de votre longue absence. Vous vinciez par devers nous en toute hâte et toute excusation cessante. Avant l'hommage, vous étiez excusé pour cause de l'avancement des besognes, mais depuis lors, vous nous avez mandé par l'honorable père évêque de Winchester que vous ne viendriez point, par peur et doute de Hugh le Despenser, ce dont nous sommes grandement étonnés. Car vous envers lui et lui envers vous, vous êtes toujours fait louange en ma présence, et nommément à votre départir, par promesses spéciales et autres preuves de confiante amitié, et encore par vos lettres particulières qu'il nous a montrées. Nous savons de vérité, et vous le savez également, dame, que le dit Hugh nous a toujours procuré tout l'honneur qu'il a pu. Et vous savez aussi que honte nulle vilainie ne vous fit depuis que vous êtes ma compagne, sinon et par aventure une seule fois, et par votre faute. Veuillez vous en souvenir. Trop nous déplairait à présent que l'hommage a été rendu à notre très cher frère le roi de France, et que nous sommes en si bonne voie d'amitié avec lui, que vous fussiez, vous que nous envoyâmes pour la paix, cause de quelque distance entre nous et pour des raisons inexactes. C'est pourquoi nous vous mandons et chargeons et ordonnons que toute excusation cessante et fin prétexte, vous reveniez à nous en toute hâte. Quant à vos dépenses, quand vous serez venu comme femme doit faire à son seigneur, nous en ordonnerons de telle manière que vous n'ayez faute de rien et ne puissiez en rien être déshonoré. Aussi voulons et vous demandons que vous fassiez notre très cher fils Édouard venir par devers nous, à plus de hâte qu'il pourra, car nous avons moult grand désir de lui voir et parler. L'honorable père en Dieu Vautier, évêque d'Exeter, nous a fait entendre la guerre que certains de nos ennemis aient banni lorsqu'ils étaient devers vous, le guettèrent pour vouloir faire mal à son corps, s'ils en avaient eu le temps, et que pour échapper à de tels périls, il se hâta de vers nous sur la foi et l'allégeance qu'il nous devait. Nous vous mandons ceci pour que vous entendiez que le dit évêque, lorsqu'il partit si soudainement de vous, ne le fit pour autre raison. Donné à Westminster, le 1er jour de décembre 1325, Édouard. Si la fureur éclatait dans le début de la missive, et le mensonge ensuite, le venin était bien savamment placé à la fin. Une autre lettre, celle-ci plus courte, était adressée au jeune duc d'Aquitaine. « Très cher fils, si jeune et de tendre âge que vous soyez, remembrez-vous bien ce dont nous vous chargeâmes et que vous commandâmes à votre départir de nous à Douvres et ce que nous vous répondît alors, dont nous vous avons su moult bon gré et ne dépassez ou ne contrevenez en nul point ce dont nous vous chargeâmes alors. Et puisqu'il en est ainsi, que votre hommage est reçu, présentez-vous devers notre très cher frère le roi de France, votre oncle, et prenez congé de lui, et venez par devers nous en la compagnie de notre très chère compagne la reine, votre mère, si elle vient tantôt. Et si elle ne vient pas, venez en toute hâte, sans plus longtemps demeurer, car nous avons très grand désir de vous voir et parler. Et ce ne laissez de le faire en aucune manière, ni pour mère, ni pour autrui, notre bénédiction. » L'hérodite, ainsi qu'un certain désordre irrité des phrases, montrait bien que la rédaction n'avait pas été confiée au chancelier ni à quelque secrétaire, mais était l'œuvre du roi lui-même. On pouvait presque entendre la voix d'Édouard dictant ses messages. Charles IV le Bel n'était pas oublié. La lettre qu'Édouard lui adressait reprenait, et presque terme pour terme, tous les points de la lettre à la reine.